16h11 minutes, donc à partir de jeudi, les voyageurs qui vont rentrer au pays devront présenter un test négatif COVID-19 avant de monter à bord de l'avion du retour. Mais que valent ces tests faits à l'étranger? On va en parler avec Christian Jacob, qui est président de l'Association des microbiologistes du Québec. Monsieur Jacob, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Jacob, avant de parler de voyage et de retour de voyage, parlons de ce qui se passe ici. 2546 nouveaux cas, dont 1128 à Montréal en 24 heures, 32 décès, 69 personnes de plus à l'hôpital pour 1294, 188 personnes aux soins intensifs, c'est du monde. J'ai posé la question à plusieurs médecins depuis deux semaines. Je vous la pose à vous aussi. Qu'est-ce qu'on fait de travers?
Définitivement, c'est qu'il y a trop de contacts, c'est pas sorcier, là. C'est la même formule que depuis le début de la pandémie. Il faut limiter ces contacts le plus possible. Il y a des mesures à mettre en place pour être capable de limiter ça le plus possible. Il semblerait qu'on ne l'a pas fait de façon assez efficace pour être capable de revirer la tendance de bord. Donc, il va falloir continuer et être plus sérieux dans notre approche là, dans les prochaines semaines pour être capable de revirer
la tendance.
De revirer la tendance.
Oui, parce que me semble pourtant que les consignes étaient assez claires, puis M. Legault était assez clair avant les vacances. Dites-moi, les cas se multiplient. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent « ben oui, ça se multiplie parce qu'on fait plus de tests ». D'abord, est-ce qu'on fait assez de tests selon vous?
On pourrait toujours en faire plus parce que on teste ici au Québec, on teste les gens qui ont eu des contacts directs ou qui ont des symptômes. On pourrait aussi prendre une portion des tests qui sont disponibles, s'il y en avait plus, pour faire des tests aléatoires et vraiment avoir une idée plus précise de c'est quoi la prépondérance de la présence du virus dans la population. Parce qu'on se doute qu'en ce moment, on en rate quand même plusieurs là qui peuvent être asymptomatiques ou qui ont des symptômes très, très faibles et qui ne vont pas nécessairement se faire dépister.
Et c'est important de rappeler que asymptomatique, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas contagieux.
Exactement.
Donc, ça, c'est important de le dire. Alors, parlons de ce sujet qui pique notre curiosité, ces fameux tests qui vont être obligatoires 3 jours avant de rentrer au pays, à partir de jeudi. Donc, ça veut dire que les gens doivent se faire tester aujourd'hui, là, demain ou plus tard, j'imagine. Est-ce que, d'après vous, les tests à l'international, les tests ailleurs, et les tests de ces pays, par exemple, où les gens sont en vacances en ce moment au soleil, est-ce qu'ils sont aussi fiables que les nôtres?
Mais possiblement que oui. Tous les pays ne sont pas égaux dans leur approche. Il y a des pays qui ont pris ça très, très au sérieux, comme Cuba, qui est une destination très, très populaire pour les Québécois. Ils ont quand même un système de santé qui est solide et ils sont capables de mettre à disposition là des effectifs pour être capables de tester, de s'occuper de cette pandémie-là, de mettre des mesures en place qui sont respectées. Et Cuba s'en sort très, très bien là si on les compare aux autres pays des Caraïbes ou d'Amérique du Sud, là, ils s'en sortent très bien. Ils ont aussi quand même pas mal testé dans leur population, moins qu'au Canada, on s'en doute, mais encore là, si on les compare aux autres pays de leur région, là, ils ont quand même eu l'air de prendre ça beaucoup plus au sérieux.
Mm-hmm. Le docteur,
regarde, par
exemple, allez-y.
Je vais juste prendre une autre comparaison qui est peut-être un petit peu moins encourageante. Là. Le Mexique, depuis le début de la pandémie, ont vraiment pas mis de l'avant les tests de dépistage comme une solution au contrôle de la pandémie. Fait que je me doute que dans un pays comme le Mexique, ça pourrait être difficile même de trouver un endroit pour se faire tester. Ils sont, je ne sais pas combien de pays font partie de la liste, là, mais ils sont 158e pays sur le nombre de tests par million de population qu'ils ont. Donc, ils ont probablement une capacité de tester qui est relativement faible en ce moment.
Oui, puis il y a plein d'autres petites îles, par exemple, d'autres endroits, des petites îles, par exemple, où tout à coup, tester 200-300 personnes le même jour, ça, ils ne sont pas organisés pour ça, là.
Oui, l'approvisionnement peut être un problème. La pression du nombre de tests supplémentaires qu'il faut qu'ils mettent en place du jour au lendemain doit être également énorme là. Donc ça peut être tout un défi là pour la logistique pour ces pays-là pour être capable de répondre à la demande.
Bon, pour se débarrasser, par exemple, justement, de se dire, en tout cas, jamais ces touristes-là ont la COVID, on veut pas les garder. Est-ce qu'il y a moyen de falsifier des tests?
Oui, quelqu'un de mal intentionné pourrait relativement facilement falsifier des tests. Il s'agit de changer un tube ou de tout simplement changer un chiffre dans une colonne. Par contre, je suis pas sûr qu'ils ont tant intérêt à le faire. Beaucoup de ces pays-là dépendent du tourisme fortement, là, dépendent de leur image à l'international pour leur économie locale. Donc, oui, à court terme, ça pourrait les aider à avoir un, je veux dire, ils veulent avoir le moins de malades possible sur leur territoire, c'est certain. Mais si, d'une façon ou d'une autre, on découvre par la suite qu'ils ont pu falsifier ou manipuler ces résultats-là, ben ça pourrait mettre une tâche à leur dossier qui leur ferait mal dans le futur. Donc, je m'inquiète peut-être un peu moins de ce côté-là, mais reste que pour que les tests soient efficaces, la qualité de l'échantillonnage est très, très importante. Puis le fait qu'ils doivent tester beaucoup de gens dans un court laps de temps et qu'il n'y avait pas cette pression-là auparavant pourrait faire en sorte qu'ils doivent employer des gens qui ne sont pas nécessairement très bien formés pour le faire. Et l'efficacité du test dépend de la qualité de l'échantillonnage. Donc, est-ce que les tests pourraient être moins efficaces à cause de ça? C'est possible.
Oui, parce que je me souviens même ici au Québec, hein, au début, il y a des tests qui sortaient négatifs, mais c'est parce que les couvillons n'étaient pas rentrés assez profondément dans le nez.
Exact. C'est quand même une procédure qu'il faut qu'il soit bien fait là, pour être efficace. Le test en lui-même, il est relativement simple puis il est bien contrôlé. Si on rate le test, on s'en rend compte relativement facilement. Mais si l'échantillonnage n'est pas bien fait, ben là, ça peut passer sous silence puis qu'on s'en rend pas compte, en fait.
Bon, alors, on essaie d'avancer dans cette espèce de labyrinthe COVID. Dites-moi, juste avant de se laisser, dernière question, est-ce que de ce que vous savez, de ce que vous observez, le confinement devrait se poursuivre avec les bilans qu'on a ou est-ce que, d'après vous, il y a moyen de s'en sortir en repartant l'économie là, presque normalement?
Ben, je vois mal comment le gouvernement pourrait justifier de ne pas prolonger le confinement avec les chiffres qu'on voit actuellement. Tous les indicateurs qu'on nous dit qui sont importants pour la prise de décision, ben ils sont pas dans le bon sens. Donc, moi, je vois mal comment ils pourraient relaxer les mesures qui sont en place en ce moment. Je pense que ça va se prolonger, là, puis je pense que c'est l'avis de la plupart des gens que j'ai entendus sur le sujet là, dans les derniers jours.
Christian Jacob, je rappelle que vous êtes président de l'Association des microbiologistes du Québec. Un gros, gros merci d'avoir pris le temps de nous parler.
Merci, au revoir.
Merci.